Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Sporama, au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations, VOA Afrique, est en train de vous faire profiter de la grande fête du foot africain. Tout sur la compétition avec nos envoyés spéciaux qui sont au Cameroun, les analyses des consultants sur le continent et en studio. Lawadine Kosuro, bonsoir.
Élisée, bonsoir.
Jules Valentin Ngwe est avec nous depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous.
On traverse les frontières pour retrouver Valdo Simon Yamba à Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. Heureux de vous retrouver.
De Casablanca au Maroc, nous avons Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis, Amédine Sy, lui, est au Cameroun, précisément à Bafoussam. Amédine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Avec eux, nous allons décortiquer cette 33e CAN avec la qualification du pays hôte pour les huitièmes de finale après avoir maîtrisé l'Éthiopie, hôte qualifiée, le Maroc venu à bout des Comores et le Nigeria tombeur du Soudan. En revanche, ça se complique pour le tenant du titre, l'Algérie, désormais condamné à la victoire face à la Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous. On connaît les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale déjà lors de la deuxième manche de poule. Et sans surprise, le Cameroun qui a réalisé le 2-2 après sa nette victoire 4-1 face à l'Éthiopie. Valdo, le pays hôte en haussant le niveau de son jeu montre clairement ses ambitions.
Bien entendu, Élisée, puisqu'après la victoire 2-1 contre le Burkina Faso, le Lion n'avait pas du tout convaincu. Il s'est devé de montrer un autre visage, plus séduisant et rassurant devant leur public, question de donner plus de garanties pour la suite de cette Coupe d'Afrique des Nations. Chose faite avec cette éloquente victoire 4-0 sur l'Éthiopie avec deux buteurs et le capitaine Vincent Aboubakar qui a signé son deuxième doublé, totalisant ainsi 4 buts. Des éléments qui mettent clairement à nu les ambitions du pays hôte, Élisée. Rien n'est acquis toutefois, puisque les Lions sont jusque-là indomptables, mais fonctionnent en mode réaction. À deux reprises, ils ont encaissé en premier avant de réagir positivement et dominer leurs adversaires. La belle réaction offensive des Lions est jusque-là en train de bien suppléer à la faiblesse défensive qui toutefois pourrait être fatale au cas où le réalisme ne serait pas au rendez-vous.
Et comme le Cameroun, le Maroc dans la poule B a aussi enregistré sa seconde victoire en deux journées. Amine Birouk, les Lions de l'Atlas ont été plus percutants et plus organisés face aux Comores qu'ils ont battu 2-0.
Ce qui est certain, c'est que l'équipe du Maroc s'est montrée plus convaincante dans le jeu, avec une prestation presque aboutie contre la sélection des Comores. Le Maroc a dominé tous les compartiments du jeu, il s'est créé d'énormes occasions de scorer. Le hic, c'est qu'il n'y a eu que deux ballons font défiler comoriens. Une victoire 2-0 qui aurait pu être beaucoup plus lourde, sans un manque de réalisme, avec un peu plus de précision ou de concentration dans le dernier geste, le Maroc aurait peut-être pu signer sa victoire la plus prolifique en phase finale de la CAN. Quoi qu'il en soit, la première place est presque assurée. Il va falloir prendre un point minimum face au Gabon et surtout préparer sérieusement le huitième de finale. Les matchs couperés ne réussissent pas tellement l'équipe du Maroc en phase finale de la CAN. Et les fantômes du Bénin ne sont pas très loin. Il va falloir donc assurer la première place, prioriser cette place de leader du groupe, et puis préparer dans la sérénité et surtout dans l'efficacité cette affiche des huitièmes de finale.
Autre sélection à avoir réalisé deux victoires en deux matchs. Le Nigeria, vainqueur 3-1 du Soudan, Lawal. Les Super Eagles ont confirmé une nouvelle fois.
Oui, Élisée, on s'attendait à ce qu'il y ait des surprises au cours de cette CAN. Et les Super Eagles sont en train de montrer qu'ils ont encore leur mot à dire dans cette compétition. Et forcément, cette qualification est de nature à renforcer l'équilibre au sein du groupe, à permettre à chaque acteur de mieux se sentir concerné, parce que désormais, il n'y a plus droit à l'erreur. Aucun joueur ne voudra sortir de la compétition à cette étape des huitièmes de finale. Donc, ça promet un jeu jeu encore plus enlevé que ce qu'on a vu lors des deux premières journées. Et évidemment, il faut s'attendre à ce que les Super Eagles, après 2013, je crois, puissent vouloir encore brandir ce trophée-là.
On pourra compter sur eux.
Oui, il faut compter sur eux. Leur défaite en demi-finale, la saison dernière, face à l'Algérie, futur vainqueur de la compétition, est encore dans les esprits et ils vont vouloir corriger ça. Ils vont vouloir véritablement sortir le grand jeu pour éviter d'être accrochés comme ça, comme ils l'ont été en 2019.
Et voilà, on reste avec vous pour parler de la première déception de la compétition. L'Algérie, championne en titre invaincue depuis 3 ans, est tombée devant la Guinée équatoriale. Le sélectionneur Djamel Belmadi accuse le coup après cette défaite.
Les situations, on les crée, je dirais, presque par dizaines, si je ne m'abuse. Aucune ne veut rentrer au fond. C'est vrai que c'est l'Everest. Pas de par la qualité incroyable, indéniable de la Côte d'Ivoire. Certes, c'est une grande équipe, c'est une grosse nation du football, avec de grandes individualités. Mais c'est pas ça qui fait qu'on a l'impression que ce soit insurmontable. C'est une autre situation à nous. Le fait d'entrer dans ce tournoi après 2 matchs, avoir 1 point. Aujourd'hui, il n'y a plus de petite équipe en Afrique.
Lawa, les Fenech au plus mal dans cette CAN, ils sont en train de craquer.
Ils sont en train de craquer, sinon qu'ils ont craqué déjà. Il faut voir, les dernières minutes face à la Guinée équatoriale, ils n'y étaient pas du tout. L'Algérie qu'on connaît était physiquement complètement amochée et au plan tactique, ils ne trouvaient pas les automatismes. On n'a pas compris, mais il faut peut-être voir dans cette défaite de l'Algérie un réveil violent pour Belmadi et son groupe. Ils sont tombés de très haut et ils vont forcément accuser le coup. Et je ne suis pas sûr que la Côte d'Ivoire puisse se laisser faire parce qu'elle aussi, elle a un petit souci. Elle n'a que 4 points.
Voilà.
Et au risque donc de s'assurer une première place, la Côte d'Ivoire va sortir le grand jeu. Et là, ça ne va pas pardonner. Les Ivoiriens vont vouloir régler leur compte. Donc, c'est mal barré pour l'Algérie. Pour
on risque de vivre le même scénario que 1992, l'Algérie, championne à titre, éliminée au premier tour au Sénégal.
Oui, c'est tout à fait ça qui risque de se passer aujourd'hui. Et quand on voit un peu la physionomie des choses, les plus grands chocs ont déjà eu lieu. On ne pouvait pas voir les Alangues de la Guinée équatoriale battre le tenant du titre de cette façon-là. Et ils étaient complètement en perdition sur le terrain. Et là, ils sont tombés de vraiment haut. Et le réveil va être assez difficile pour eux. C'est mal parti pour les Fenech d'Algérie.
Mais on l'a déjà évoqué, petite déception chez certaines sélections qui pouvaient déjà se qualifier pour le second tour. Le cas de la Côte d'Ivoire, tenu en échec par la Sierra Leone, score 2-0. L'attaquant ivoirien Nicolas Pépé, buteur, a déjà le regard tourné vers l'Algérie.
Oui, c'est sûr qu'avec cette erreur, on regarde justement ce qu'on a pu rater. Quand on a marqué le deuxième but, ils ont laissé beaucoup d'espace. Et on a eu beaucoup de situations. Malheureusement, on n'a pas pu marquer ce troisième but pour nous mettre à l'abri. Mais voilà, on va bosser. On va bosser pour justement être plus efficace. Parce que contre l'Algérie, ça sera un gros match et il faudra être efficace.
Jules, les éléphants ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Certainement, Élise. Les éléphants ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Tout d'abord, après avoir copieusement dominé une équipe sierra-léonaise moins outillée tout au long de la rencontre, sans concrétiser plus de 4 occasions immanquables supplémentaires en but avant l'accident de la 90e minute, l'action qui suit relève pratiquement du cauchemar. Un ballon qui veut sortir en corner. Le gardien ivoirien qui choisit de l'en empêcher par une belle horizontale, mais atterrit sur la tête et glisse, relâchant le ballon qu'un attaquant sierra-léonais se surprend à convertir en but. C'est l'impensable égalisation de dernière minute sur un but gag de Badri Sangaré et que celui-ci pouvait éviter. On se rappelle alors qu'après la mise à l'écart du gardien titulaire Sylvain Ngouaou, très sécurisant, les spécialistes s'accordaient à reconnaître que ce poste devenait le point faible d'une équipe pourtant impressionnante par ses joueurs de champ. La bourde de ce dimanche confirme l'adage qui dit qu'en football, une grande équipe a forcément un grand gardien. Nous attendons d'être démentis.
Le Mali également a accroché 1-1 par la Gambie alors qu'il tenait la victoire. Amédine, les Aigles dominateurs ne sont pas au niveau de l'attente.
Tout à fait, Élisée. Les Aigles dominateurs n'ont pas répondu à l'attente car ils ont été tenus en échec hein, par une surprenante équipe de la Gambie classée 150e au classement FIFA. Il faut dire que dans ce duel entre Aigle et Scorpion, il y a une histoire de pénalty, hein, car le Mali a ouvert le score sur pénalty par l'intermédiaire de Ibrahim Koné et les Gambiens ont remis les pendules à l'heure aussi sur pénalty à la 90e minute. C'est un match frustrant hein, pour le Mali qui avait déjà son ticket pour les huitièmes de finale à quelques minutes de la fin de la rencontre. Pour la Gambie, le rêve continue. Deux matchs sans défaite et une qualification en huitièmes de finale en vue. Un bel exploit pour une première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Élisée.
Jingle. Pour les sélections de l'Afrique du Nord, à part le Maroc, le tenant du titre l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie joueront leur qualification lors de la troisième journée. Amine, malgré leur bonne participation à la Coupe arabe des Nations, ces trois pays peinent à trouver leur marque.
Tout à fait, Élisée, et ces trois équipes vont disputer la dernière journée avec des horizons totalement différents. L'Algérie, surprise par la Guinée équatoriale 1-0, qui subit une défaite, la première depuis bien longtemps, peut-être bien avant la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les tenants du titre sont dans les cordes avec l'obligation de l'emporter face à la Côte d'Ivoire pour ce qui est considéré comme le grand clash de ce groupe 5. Il y a aussi l'horizon de l'équipe d'Égypte. Elle a gagné sans convaincre petitement face à la Guinée-Bissau et sera dans l'obligation de confirmer ce dernier résultat face au voisin, l'équipe la plus faible du tournoi, le Soudan. Et puis la Tunisie, qui a montré un visage beaucoup plus conquérant face à la Mauritanie avec une victoire 4-0, un pénalty manqué qui aurait pu alourdir l'addition des Mourabitoun. Et ce qui est certain, c'est que les Tunisiens abordent la troisième journée avec de bien meilleures perspectives. Nous verrons comment se débrouilleront ces trois sélections, mais évidemment, les sensations sont différentes. Elles sont moyennes pour l'Égypte, défavorables pour les Fenech et assez sereines du côté tunisien.
Le Sénégal, proche de la qualification après son nul 1-1 face à la Guinée, ne convainc pas dans le jeu. Aliou Cissé, le sélectionneur, reste tout de même confiant en conférence de presse aujourd'hui à la veille de son match face au Malawi.
Les deux sont importants, se qualifier pour les huitièmes de finale et finir premier de notre groupe. Bien sûr que nous savons que nous allons faire face à une équipe motivée, une équipe qui va jouer avec ses valeurs. S'ils rajoutent aussi, ils ont des individualités aussi devant, capables de faire la différence. Parce que le football d'il y a 20 ans et le football d'aujourd'hui est vraiment différent. Donc c'est important aussi, comme vous le dites, d'avoir l'ensemble de son équipe à sa disponibilité. Et aujourd'hui, ça nous permet effectivement de pouvoir avoir plus de choix et constituer vraiment la meilleure équipe du Sénégal.
Ahmedine, les nombreuses absences n'aident pas du tout le technicien sénégalais.
Tout à fait, Élisée, comme vous le savez, tous les cadres, hein, hormis Sadio Mané, ont été atteints par ce virus du corona, des cadres comme Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye ont été déjà touchés. À cela, il faut ajouter le forfait de dernière minute hein, de Pape Gueye et l'incertitude qui plane au niveau de la participation d'Ismaël Sarr. Donc, c'est un effectif décimé que Aliou a sous portée de main. Donc, Aliou est en train de colmater hein, pour avoir un 11 de départ valable. D'ailleurs, si on regarde le 11 qui avait joué la dernière finale de la CAN, on retrouve que deux rescapés lors de ce match contre la Guinée. Donc, c'est dans des conditions extrêmement difficiles que Aliou est en train de négocier les matchs de poule. Mais, comme on le dit, c'est une compétition. Hein, il faut négocier le premier tour. Après, on verra ce qui va arriver. Mais force est de reconnaître que pour le moment, le Sénégal n'en convient pas dans le jeu. Élisée.
Le Gabon est très bien parti pour se qualifier lui aussi en huitième de finale après son nul 1-0 contre le Ghana. Jules, belle performance pour les Panthers, tout de même privés d'Aubameyang et de Mario Lemina.
En effet, Élisée, en réussissant son but égalisateur à l'ultime minute du temps réglementaire, le médian gabonais Alevina a pratiquement propulsé son équipe en huitième de finale, même si le camp adverse a vivement réagi. Estimant que l'action de but partait d'une touche non remise par les Gabonais, alors que la balle avait volontairement été mise hors du terrain pour un joueur resté au sol. Pour les Gabonais, ce n'était qu'une astuce ghanéenne, dans le but de laisser s'égrener les ultimes secondes pendant que le Ghana menait encore au score. Bien entendu, le Ghana a encore son destin en main. Et pour le Gabon, avec 4 points déjà pris, la qualification est pratiquement acquise, eu égard au schéma qualificatif dans les compétitions à 24, où 4 des meilleurs 3e de poule sur 6 sont repêchés pour le tour suivant. Si on se réfère aussi à la dernière édition, où sur les 4 équipes repêchées, une, le Bénin, n'avait que 3 points, mais avait même atteint les quarts de finale, difficilement éliminé par le Sénégal. En fait, pour le Gabon, la véritable inconnue est le classement. Troisième, deuxième ou même premier, au cas où il venait à battre le Maroc. L'absence prolongée de ces deux joueurs vedettes, Lemina et Aubameyang, a plutôt eu un effet positif en ramenant la sérénité dans la tanière, en permettant aux joueurs entrants de se galvaniser et de se donner plus de responsabilités. Mais aussi, cela a permis de brouiller les contre-stratégies des staffs adverses. Alors leur retour devrait surtout servir à utiliser Aubameyang comme un joker, un sup-sup pour les Anglais, capable d'inverser la donne dans un rôle semblable à celui de Roger Milla à la Coupe du Monde italienne en 1990.
Valdo, l'Afrique centrale peut aussi compter sur la Guinée équatoriale.
Pourquoi pas, Élisée, ça reste du football et surtout quand on sait qu'un match de football n'est jamais gagné d'avance, c'est que tout peut arriver avant le coup de sifflet. Finale d'une rencontre, la Pro avec cette historique victoire 1-0 de la Guinée équatoriale sur le champion d'Afrique en titre. Victoire qui met un terme à la série d'invincibilité de l'Algérie après 35 matchs. Avec cette victoire, la Guinée équatoriale s'ouvre peut-être les chemins des huitièmes de finale dans un groupe où cette possibilité ne pouvait pas avoir autant de probabilités puisqu'il y avait la Côte d'Ivoire et l'Algérie à jouer qui devaient en principe survoler. Ces groupes, les deux Cadors, doivent s'affronter lors de la dernière journée, occupent respectivement la première et la dernière place, tandis que la Guinée équatoriale et la Sierra Leone sont deuxième et troisième. Cette dernière journée s'annonce palpitante dans ces groupes, puisque chacun jouera sa survie en dernier match de groupe.
On revient vers vous, Amine. En somme, la CAN livre ses premiers enseignements après 2 journées.
De nombreux enseignements à retirer de ces 2 journées. Tout d'abord, sur le plan de la qualité du jeu, on a eu une première journée de phase de groupe assez terne sur le plan offensif. Et on a vu une belle amélioration lors de la seconde journée, avec une mention pour les sélections nationales du Cameroun, du Nigeria et de Tunisie. On a également un enseignement concernant le public. Il est nombreux lors des matchs du pays organisateur et il est inexistant lors des autres rencontres. Espérons que la mesure prise par les autorités camerounaises de libérer les fonctionnaires et les écoliers quasiment à la mi-journée permettra de combler les vides béants qui sont dans les tribunes. Et puis, autre enseignement, la programmation qui est à revoir. En tout cas, on ne peut pas envisager des journées où il n'y a que 2 rencontres et d'autres où il y a 4 rencontres, dont 2 matchs en simultané. Ne pas programmer les grandes équipes et les grands affrontements en prime time est aussi une lacune. Et puis, la programmation des rencontres à partir de 14h heure camerounaise, dans des fournaises et dans des conditions météo assez délicates en termes d'humidité, nuisent à la qualité du spectacle. Voilà, les premiers enseignements en attendant d'autres pour la suite de la compétition.
Jingle. Et comme prévu, la qualité et l'intensité du jeu sont montées d'un cran lors de cette seconde journée des matchs de poule qui ont pris fin hier. On a senti plus d'engagement. Alors, Jules, comme vous l'avez dit, les entraîneurs ont commencé par battre leur cadre tactique. On pourrait dire que la CAN est maintenant lancée.
Oui, Élisée, les grandes manœuvres ont commencé dans les différents états-majors, tant les cartes sont brouillées. Tout d'abord, au niveau du classement dans les poules, qui va influencer pour la plupart des équipes la durée du parcours dans la compétition, il existe encore plusieurs inconnus. Pour les équipes qui ont mal démarré, la victoire est impérative si on veut décrocher la deuxième place et dans le pire des cas, un repêchage. Le Burkina Faso, le Ghana, le Malawi et le Cap-Vert en font partie. L'équation n'est pas simple non plus pour les staffs techniques des équipes en pole position, comme le Cameroun, le Maroc, la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, tenter de faire tourner l'effectif. Au moins, il ne faut pas, on se retrouve deuxième et la rencontre avec un autre gros est inévitable, surtout que lors de cette édition, certains ténors qui ont démarré au diesel, comme l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, voire le Sénégal, peuvent se retrouver deuxième dans des dispositions différentes et s'inviter à votre huitième de finale. Il est donc prudent de jouer plus tôt avec un meilleur troisième. Tu le vois, Élisée, tu as raison, l'heure du coaching impeccable a déjà sonné, la canne est lancée.
Valdo, certaines sélections ont été même impressionnantes dans leur jeu, à l'image du Cameroun, du Maroc et du Nigeria.
Élisée, cette deuxième journée était celle au cours de laquelle ces nations avaient l'obligation de montrer leur vrai visage en améliorant leur fond de jeu, mieux en se mettant surtout à l'abri avant la troisième et dernière journée de la phase des groupes. En plus d'être pays hôte, les Cameroun restent toujours un sérieux prétendant au titre et à domicile, devant leur public. Les Lions ont fait preuve de beaucoup de maîtrise. Les Maroc, par contre, a fait sensation dès la première journée en dominant les Black Stars du Ghana. Et les Gabon n'a pas échappé à leur suprématie qui est plus que palpable et sans résistance lors de cette phase des groupes. Loin de toute attente, les Super Eagles sont bien là, en véritable concurrent, la preuve. Ils survolent la phase des groupes devant les pharaons et assurent déjà leur place au prochain tour de cette CAN. Une étape à élimination directe qui va certainement changer la donne dans cette compétition et exiger plus que ce qu'ils produisent jusque-là.
Une Coupe d'Afrique des Nations, c'est toujours un événement très attendu par les supporters du continent. Mais au Cameroun, les stades sont vides dans les différentes villes, alors que la CAF a autorisé à les remplir jusqu'à 80% pour les matchs du pays hôte et 60% pour les autres sélections. Amédine Sy, vous qui êtes sur place, comment peut-on l'expliquer? Et pourtant, les Camerounais sont connus pour leur engouement pour le football.
Tout à fait, Élisée. La principale est sans nul doute la lourdeur du protocole sanitaire adopté par la Confédération africaine de football et le comité d'organisation pour limiter la propagation du Covid. Des règles particulières strictes ne peuvent assister qu'au match que les personnes dûment vaccinées qui doivent en outre présenter un test négatif datant de moins de 48 heures. Et cela pose problème en cette absence de spectateurs. Préoccupe d'ailleurs les autorités du Cameroun après les initiatives prises par les différentes autorités locales pour faciliter le déplacement des populations vers les stades les jours de match. C'est au tour du Premier ministre camerounais d'instruire quelques mesures importantes pour permettre aux travailleurs, élèves et étudiants de pouvoir se rendre au stade. Maintenant, les activités scolaires et académiques se tiendront de 7h30 à 13h, tandis que les activités professionnelles s'étaleront de 7h30 à 14h. Tout cela est visé pour permettre aux Camerounais de venir garnir les gradins des stades, puisque on le sait, le Cameroun est un pays de football et on n'a pas le droit de vivre ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire voir les matchs de la CAN jouer ou dans des stades vides. Je pense que cela va changer. Élisée.
Lawal, normalement, cette CAN qui a connu tant de tumultes avant son démarrage devrait les amener à animer la fête, puisque ce n'était pas gagné d'avance.
Non, Élisée, les CAN ont toujours offert ce spectacle malheureux d'absence de spectateurs dans les stades, en dehors des matchs du pays hôte. On a souvent vu des stades désespérément vides. Cameroun 2021 ne déroge pas à la règle. Et il faut voir également le moment auquel se joue cette CAN. Les fonctionnaires n'ont pas de congé, ils doivent aller au boulot. Tous ceux qui doivent venir au stade doivent courir pour la pitance quotidienne. Donc on ne peut pas, dans ces conditions, espérer que les stades soient remplis. Mais quand les stades sont désespérément vides, il ne faut peut-être pas espérer que les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes pour donner du spectacle, du bon spectacle aux téléspectateurs.
Voilà qui est clair. C'est fini pour ce programme de ce jour. Merci Lawal.
Élisée, c'est moi.
Merci à tous ceux qui nous ont suivis également un peu partout en Afrique, en bande FM ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 555. N'oubliez pas que toutes les informations relatives à cette CAN sont à retrouver sur notre site voaafrique.com. Au revoir.